Putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie?
C'est le canu info.
Ah,
bah, mais, je sais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. C'est si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut débarquer ton permis, ton alcoolémie et ton touchine. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Trois moustaches dans une escavette. C'est quoi, c'est quoi,
c'est
quoi,
c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi.
Radio Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez pas, niquez tout.
Attends, paniquez pas,
niquez tout, niquez tout.
Paniquez pas, niquez tout.
Paniquez pas, niquez tout.
Canu Info du vendredi.
Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, il est 19h05, vous êtes bien sur Radio Canu au 102.2 FM, et donc c'est l'heure des Canu Info, et comme on est vendredi, c'est les Canu Info du...
Vendredi.
Eh oui. Alors de quoi qu'on va parler ce soir ?
Eh bien on va parler à nouveau, évidemment, on va vous donner pas mal de bonnes nouvelles, notamment une nouvelle proposition de loi anti-squat qui a été proposée en France.
On enchaînera avec toujours d'aussi bonnes nouvelles du Covid-19 dans le monde.
Oui, toujours des bonnes nouvelles. On vous diffusera aussi, on est le 11 novembre, donc on vous diffusera une chanson antimilitariste forte à propos, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la chanson de Craon.
Et pour continuer sur les questions mondiales, on vous parlera du Pays-Bas qui a utilisé un peu les mêmes algorithmes racistes que la CAF utilise en France et qui fout les gens dans la mouise.
Absolument. Ensuite, on vous donnera un agenda assez complet ce soir, un double agenda des infos de ce qui va se passer directement dans Lyon, ainsi que, ça tombe assez vite, eh bien, des infos spécifiques à Radio Canu, évidemment.
Et pour finir, bah, devinez quoi, on vous fera un petit ACAB et exceptionnellement, vous aurez même droit à quelque chose après, un hommage à Noël Bréham. Voilà, si vous voulez nous appeler, on va vous rappeler le numéro que je ne vois pas de mon siège, si vous voulez nous proposer des petits ACAB.
Un petit numéro qui est le 04 78 39 18 15, n'hésitez pas à nous appeler en direct pour nous dire si vous savez ce que ça veut dire ACAB. Je crois qu'il est, l'heure, donc il est 19h07 sur Radio Canu et on passe tout de suite à une rubrique logement.
À la question du manque de logement, vous le savez très bien. C'est-à-dire qu'on raisonne hiver après hiver sur les bâtiments publics qui pourront être réquisitionnés.
C'est pas en cachant la misère sous le tapis que, n'est-ce pas ?
Écoutez, moi j'ai été ministre du logement.
Chez moi, il n'y a que des bredignots au gouvernement. Et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends ?
Et maintenant, dans le Canu Info, la rubrique droit au logement.
La planète entière.
Et on attaque tout de suite avec ce qu'aurait pu être une bonne nouvelle, c'est-à-dire le gouvernement, en tout cas le groupe Renaissance, donc on se rappelle c'est LERM, ils ont changé de nom, on ne sait toujours pas bien pourquoi. Et en particulier Aurore Berger, qu'on entend dire n'importe quoi quotidiennement sur les médias, qui viennent avec une loi qui concerne le squat et le logement. Alors évidemment, on va tout de suite se calmer. C'est pas une loi favorable qui dit que peut-être les gens n'ont pas de logement, c'est un problème, et que le droit devrait être respecté et qu'on va trouver des solutions pour ça. C'est une loi qui, je vais vous citer le début de l'introduction, vous raconte ceci. La médiatisation constante des squats et des litiges de loyers témoigne de la forte émotion que suscitent chez nos concitoyens ces exemples d'incivilité et d'injustice vécues au quotidien. Ensuite, on enchaîne avec ce petit paragraphe qui nous dit que 64% des propriétaires bailleurs ne détiennent qu'un seul logement en location. Les petits propriétaires sont une réalité et un tiers d'entre eux sont des retraités. Les revenus qu'ils tirent de leurs biens de location sont absolument indispensables pour leur garantir une retraite sereine. Ils n'ont pas, comme les gros bailleurs, les moyens de faire protéger les logements des squatteurs par des entreprises de surveillance ou de faire gérer leurs biens par des tiers. Alors déjà, rien que sur l'introduction de la loi, on ne sait même pas de quoi il va s'agir. On peut quand même déjà un petit peu s'affoler dans le fait où, dans un premier temps, quand même, toute cette rhétorique, la médiatisation, c'est quand même le premier vrai mot du truc, qui dit, c'est parce que c'est médiatisé, donc on sait bien qui est-ce qui relaie un peu tous les mois que ça peut générer, qu'il y ait des squats... évidemment, c'est BFM et tous les Bolloré et tous les potes.
Petite pensée aux Parisiens quand même qui récemment se fait connaître pour faire particulièrement n'importe quoi.
Ah, je n'avais pas suivi celui-là.
Ils avaient médiatisé une petite affaire de personnes supposément squattant un logement et ce qui avait abouti à ce que plus ou moins des milices aillent déloger ces gens. Voilà. Ils ne se sont pas excusés, vraiment.
Ah, dommage. Et puis on peut se rappeler, il y a un an, enfin c'était l'été, du coup l'été 2021, où il y a la loi ASAP qui est passée, qui évinçait un peu la justice sur ce qu'ils appellent les violations de domicile, et du coup en gros qui était un durcissement des lois des squats, et qui était déjà la conséquence d'une surmédiatisation d'une affaire de gens qui avaient squatté la résidence secrétaire de deux retraités qui ne pouvaient pas partir en vacances, et ça avait généré déjà une loi. Donc on commence déjà sur un délire de c'est la médiatisation qui témoigne de l'émotion et quand même de l'injustice vécue au quotidien. On peut continuer de regarder un peu tout ça parce que quand même c'est intéressant de voir toute cette rhétorique qui dit 64% des propriétaires bailleurs ne détiennent qu'un seul logement en location, les petits propriétaires, gna 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 gna. Alors ça on va remettre un peu les trucs parce que c'est relativement habile de présenter ça, c'est certainement vrai, je suis pas allé vérifier mais enfin il n'y a pas de raison que ça le soit pas. Seulement ce qu'ils oublient un peu de dire c'est que 64% des propriétaires bailleurs, ça parle pas du tout du nombre de logements et des gens qui possèdent des logements à gogo. Ça veut dire qu'il y a quand même plus de la moitié de la population en France qui est pas propriétaire du tout, de que dalle. Donc même pas de sa résidence principale. Ouais,
c'est un peu moins de la moitié, si on prend les ménages.
Et bien là, c'est ouais, 41%, pardon, 41%. Et ensuite, il y a 34% des gens qui possèdent un logement, donc dans l'immense majorité des cas, c'est leur résidence secondaire. Donc ensuite, si on commence à additionner...
Non, principal.
J'ai dit secondaire, c'est principal, ouais. Donc 34 plus 41, donc on est à 75% en gros des gens qui soit sont pas propriétaires, soit sont propriétaires de leur logement à eux, et ils font pas des sous sur la location, etc. Seulement, bah évidemment, c'est toujours pareil quand on commence à regarder un peu plus précisément. Du coup, il y a 24% des ménages qui détiennent 2/3 du parc du logement. Là déjà, on est sur une répartition vachement moins égale. Et évidemment, plus on avance sur le nombre de logements, plus on se retrouve avec, par exemple, 11% des ménages qui possèdent finalement la moitié du parc, quasiment 46%. En gros, sans rentrer dans tous les chiffres et dans tous les détails, quand on dit 64% des propriétaires, d'un coup, on a l'impression que c'est plus de la moitié et que c'est quand même vraiment quelque chose de conséquent. En vrai, c'est une putain de minorité parce qu'il y a le fait déjà de posséder un logement, c'est plus ou moins un peu moins de la moitié des gens qui en possèdent pas. Il y a le fait d'avoir sa résidence principale, ce qui est quand même pas exactement la même chose parce qu'on le verra après. Ce qu'ils veulent, c'est empêcher que les squatteurs aillent dans des logements qui vont être mis en location. Parce qu'en vrai, des gens qui squattent dans des résidences principales, à moins vraiment de se rater, ça existe pas en vrai. Il y a dû avoir deux cas sur les 15 dernières années de gens qui se sont loupés et qui ont peut-être fait un peu n'importe quoi. Et du coup, qui sont mis à squatter dans une résidence principale et ils y sont pas restés longtemps. On rappellera par ailleurs que tout cet émoi et cette médiatisation, etc. En vrai, le gouvernement, il avait communiqué, moi je ne savais pas. En 2021, il avait dit au mois de mai que depuis janvier, il y avait 124 procédures d'expulsion pour logement squatté. 124 sur toute la France. Donc c'est on est ridicule. Sur un truc inexistant et minoritaire. Il disait, c'est pour titre de comparaison, même si moi je ne me rends pas trop compte, peut-être certains et certaines, ça leur parlera, c'est 100 fois moins que les cambriolages sur la même période. On est sur quelque chose quasiment inexistant. Donc, leur rhétorique des petits propriétaires, etc., sachant que là, on parlait que des ménages qui sont propriétaires et bailleurs, on parle évidemment pas des grands conglomérats et du monde de l'entreprise qui possède évidemment beaucoup, beaucoup de bâtis. Et là, on est encore sur des proportions complètement délirantes. Bon, on passera rapidement sur le fait que c'est absolument indispensable pour le retraité de survivre, etc. Éventuellement, pour envisager de donner des retraites décentes aux gens, on pourrait en discuter, mais il semblerait que peut-être ça mettrait moins les gens dans la merde après. Mais ça, le gouvernement, a priori, ça les dérange pas. Donc, en gros, la loi, qu'est-ce qu'elle propose ? Elle trouve qu'il y a une injustice très, très terrible, quand même, sur ces questions de squat. C'est qu'en fait, les gens qui squattent, ils risquent moins que les propriétaires qui expulsent illégalement des gens. C'est-à-dire qu'en gros, quand on squatte, la peine maximum, c'est 1 an de tôle et 15 000 euros d'amende. Et, je cite la proposition de loi, « Paradoxalement, cette peine est nettement inférieure à celle qui est encourue par les personnes qui expulsent personnellement les squatteurs de leur domicile sans avoir recours à la force publique, qui, eux, risquent 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, donc 3 fois plus. » Donc le gouvernement explique que quand même c'est vraiment parfaitement injuste que des gens qui occupent un domicile vide, enfin un logement vide pour se mettre à l'abri, parce que généralement on squatte pas que pour le plaisir, c'est quand même vraiment scandaleux, qui risque moins que quelqu'un qui viendrait les expulser manu militari, surtout quand on connaît un peu la mode un peu en ce moment des milices anti-squat et même d'entreprises qui se montent avec pignon sur rue, qui sont là et qui en gros tègent les squatteurs. Alors ils font une petite vitrine un peu jolie, mais en fait derrière c'est juste des gros bras qui vont venir déloger les gens à grands coups de pompe dans la tronche. Et peut-être c'était dans cette direction-là qu'on aurait pu aller chercher. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas que ça, parce que aussi quand même le gouvernement trouve qu'il y a un vrai problème sur le fait que quand les gens ne peuvent plus payer leur loyer, c'est vraiment très 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 long de les expulser, et puis la justice intervient vachement, c'est quand même un petit peu chiant.
Les propriétaires, ils galèrent, franchement.
Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud pour eux, et du coup, évidemment, il y a une production de la réduction des délais, donc le délai pour avoir une audience s'est réduit de 2 mois à 1 mois entre l'assignation et le jour de l'audience. Il y a 2-3 autres détails, je vous laisserai aller consulter pour avoir tout, on ne va pas tout lister, ça va être un peu chiant, mais en gros l'idée c'est dire les squatteurs, il faut les sanctionner un max, et on met sur le même niveau le fait de squatter pour se mettre à l'abri ou le fait d'aller tabasser des gens pour les sortir d'un logement. On fait croire que ça concerne le petit propriétaire, et on peut imaginer notre mamie qui a effectivement acheté un logement, etc., sans rappeler que même les gens qui ont un logement, bon, je ne sais pas exactement combien ça coûte en moyenne, mais par exemple à Lyon, c'est quand même vite très très cher. On peut quand même rappeler que le patrimoine médian en France, c'est 150 000 balles. Donc c'est même pas un appart à Lyon en vrai. Et du coup, déjà être propriétaire, c'est déjà se situer dans une frange plutôt élevée de la population. Et en plus, si on prend les propriétaires bailleurs, donc des gens qui ont 2 logements, en fait, on arrive directement à des gens qui ont beaucoup plus que les squatteurs. Et du coup, pareil, est-ce qu'on sanctionne pareil en fonction des niveaux de revenus ? La question est ouverte.
Voilà. Donc, rappelons que fondamentalement, le fait d'être un propriétaire bailleur, hein, donc d'avoir de la propriété lucrative, contrairement au fait d'habiter sous le même logement, c'est quand même de l'exploitation, au même titre que le fait de posséder une entreprise, hein, c'est posséder les moyens de reproduction comme le logement, plutôt que les moyens de production comme l'entreprise. Et l'argent que les personnes tirent des loyers qu'elles possèdent, c'est juste les autres qui travaillent pour eux, quoi.
Exactement. Et du coup, le gouvernement trouve que c'est encore trop dur pour les propriétaires. Et évidemment, on voit bien que c'est pas pour protéger, en réalité, votre grand-mère qui loue un logement et qui peut-être a effectivement une petite retraite et qui galère de ouf. C'est bien évidemment pour aider les classes les plus aisées qui possèdent, en réalité, même en étant très minoritaires, une grande majorité des logements.
Eh ben, écoute, ça fait pas plaisir du tout. On espère qu'on pourra un petit peu s'organiser pour résister contre...
Ah, j'ai failli oublier, pardon, je t'interromps au passage. Il y a une pétition qui est lancée par le DAL sur change.org. Si jamais vous avez envie, vous pouvez aller la signer. On sait pas bien si ça produira quelque chose, mais en tout cas, ça fait exister. On peut dire que le DAL, c'est pas les dernières des andouilles.
Voilà, et ça vous permettra sans doute d'avoir en plus des informations plus amples si vous voulez regarder le reste des saloperies que nous n'avons pas eu le temps de vous présenter. Tout de suite, nous passons à l'international.
Dans la rubrique internationale du Canu Info, on entend l'écho de lutte, on écoute des reportages insoupçonnés de manifestations à travers le monde. On évoque des thèmes variés comme le gaz de schiste
et d'exploitation de gisements de gaz de schiste.
les mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale.
Et oui, et dans la rubrique internationale aujourd'hui, quelque chose qui nous concerne toutes et tous, puisqu'on va évidemment, il faudrait un moment qu'on réussisse à faire un petit jingle santé, Covid ou je ne sais quoi.
Il se murmurerait qu'il serait en cours.
Oh, il y a des gens qui bossent parmi vos animatrices et animateurs préférés sur Radio Canu. Donc, une nouvelle petite vague d'informations sur le Covid-19. Alors, on a de nouvelles études, le nombre de papiers académiques sur le sujet, le nombre d'études qui nous permettent de mieux en mieux de connaître cette véritable saloperie s'accumule. Et là, on a notamment une assez grosse étude qui a été publiée hier, qui vient confirmer, en fait, une fois de plus, que chaque réinfection du Covid, donc si vous l'attrapez plusieurs fois, est plus risquée que la première infection. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez avoir des symptômes plus graves sur le moment de l'infection, mais ça va avoir des effets à moyen terme plus lourds, mais ça peut tout de suite avoir des effets. Le risque de décès augmente, le risque d'hospitalisation augmente, et le risque de problèmes de santé à moyen et long terme augmente aussi de manière très significative lors d'une réinfection par rapport à une première infection. Et ce, c'est important de le noter, indépendamment du statut vaccinal. Donc, la vaccination protège des formes graves, elle protège donc aussi, elle fait que les personnes qui sont vaccinées ont moins, y compris sur une seconde infection, de risques de décès, d'hospitalisation et de formes graves à moyen terme. Mais cependant, même vacciné, plus vous vous réinfectez, plus vous prenez de risques. Techniquement, voilà, c'est ce que ça veut dire.
Ça baisse la barre des risques maximum, mais ça n'empêche pas l'augmentation.
C'est-à-dire que vous risquez moins parce que vous êtes vacciné, mais si vous vous réinfectez plein de fois, vous risquez quand même de plus en plus à chaque réinfection. En gros, c'est aussi ce qui vient pointer quand même la grosse limite des politiques, notamment qu'on a en France, où la seule politique aujourd'hui sur le Covid-19, et encore elle a quasiment disparu, c'est la politique de vaccination. Même si elle ne concerne pas les enfants, même si les rappels n'ont pas vraiment été faits, etc. En tout cas, le « vax and relax », qui est une expression utilisée notamment aux États-Unis pour dire « ça y est, ok, je suis vacciné, tout est tranquille ». Malheureusement, ce n'est pas le cas. La vaccination ne protège pas, y compris de formes graves en particulier, à moyen terme, etc. On ne parlera pas vraiment spécifiquement ce soir de Covid long, mais on sait qu'on peut tout à fait développer un Covid long. Et que plus, malgré le fait d'avoir été vacciné, et que plus on va s'infecter, plus on a de risques d'y arriver. Alors cette étude, elle a été faite quand même sur un grand nombre de patients. Alors on verra qu'ils sont un peu spécifiques, puisque c'est les patients qui sont sous l'égide du ministère américain des anciens combattants. Et donc c'est une étude entre le 1er mars et le 6 avril 2020 et le 6 avril 2022, donc en fait sur 2 ans. Donc ça concerne environ 6 millions de personnes, parmi lesquelles 5,3 millions n'auraient pas été vaccinés. 450 000, sont des patients qui auraient été infectés une fois, et une cinquantaine de milliers auraient été infectés deux fois ou plus. Donc, ça c'est la première chose. La plupart des sujets de cette étude sont des hommes, puisqu'on dépend du ministère américain des anciens combattants. Et évidemment, la possibilité d'extrapoler les résultats n'est pas totale, puisqu'on a des personnes âgées, anciennes combattantes, même si aux États-Unis, bon, comme en France, on est à la retraite très très jeune quand on est militaire, parce qu'on a beaucoup d'hommes, et on sait que globalement, le Covid-19 est une maladie qui va avoir des effets souvent plus graves sur les hommes, statistiquement, ça n'empêche pas les femmes d'avoir des Covid longs, par exemple, mais il y a quand même cet effet-là. Et donc, on a des effets qui sont quand même très grands. Donc, toutes ces limites mises à part, ces patients réinfectés avaient quand même un risque de décès deux fois plus gros que les personnes infectées une seule fois. Un risque de hospitalisation, triplé par rapport aux personnes infectées une seule fois. Présentaient également des risques élevés de problèmes pulmonaires, cardiaques, sanguins, rénaux, de diabète, de santé mentale, d'os, de muscles et d'autres troubles neurologiques qui, eux, étaient aussi beaucoup plus importants qu'après une première infection. Donc même si une personne a été infectée, a été vaccinée, elle est toujours en fait susceptible d'avoir des conséquences négatives en cas de réinfection. Les problèmes pulmonaires multipliés par 3, Les problèmes cardiaques multipliés par 3, on pourrait continuer là-dessus. Et les troubles neurologiques augmentés de 60% sur une deuxième infection par rapport à une première infection. Donc globalement, c'est grave. On a aussi un truc pas inintéressant sur les effets à moyen terme, qui est que on a des risques qui se déclarent surtout au cours du premier mois, relativement équivalent au bout de 6 mois, c'est-à-dire notamment sur tout ce qui va être effet à moyen terme. Et puis ça baisse après, il y a peu de chances que 6 mois après un Covid se déclarent des choses plus graves. Enfin, des dégradations. Après ça, c'est sans prendre en compte le fait que les corps vont vieillir et que les choses vont réanimer. Donc, en fait, on n'en sait pas grand-chose. Mais voilà. Donc globalement, une étude qui se rajoute en plus. Un autre élément intéressant dont on se doutait un petit peu quand même, c'est que la typologie de variant ne change rien à ça. Donc notamment tout le discours sur Omicron qui serait mild.
Contagieux, moins agressif.
Moins agressif, en fait absolument fausse. On le sait d'ailleurs par d'autres statistiques. On le sait sur la mortalité par exemple des personnes très fragiles en France, notamment des immunodéprimés, hein, qui sont morts plus en 2022 qu'en 2021 et 2020. Alors c'est aussi lié à l'absence du port du masque, hein, mais globalement on a ça. En Angleterre, donc on connaît hein, la situation en Angleterre, en France, c'est à peu près la même, hein, c'est-à-dire à peu près zéro protection. On a carrément une multiplication des hospitalisations par 3 sur 2022 par rapport à 2021 et 2020. Donc en fait, le discours sur Omicron est moins fort et assez fausse. Il y a le même nombre de décès, etc. Ce qui se passe, c'est que globalement, le truc a moins d'effet vu la totalité des gens qui sont infectés, qui sont plus importantes que sur les variants précédents. Mais il est évidemment en partie défait par la vaccination, même si elle tend à être de moins en moins efficace avec le temps. Bref, globalement, il n'y a pas d'amélioration. Voilà, l'arrivée du super variant qui deviendrait aussi peu significatif pour la plupart pour la population que le rhume marche pas. Et évidemment, une autre chose, c'est que... Alors évidemment, pas forcément d'ailleurs, mais une autre chose, c'est que ces risques-là qui augmentent avec... le nombre d'infections, il est aussi assez indépendant dans cette étude des comorbidités. Donc évidemment, on a des personnes qui sont beaucoup plus à risque que d'autres. On ne sait d'ailleurs pas forcément exactement toujours pourquoi, mais les personnes immunodéprimées, les personnes diabétiques, évidemment les personnes plus on est âgé, etc. Mais pareil, la multiplication du risque. Vous avez un risque plus chète si vous êtes jeune et en bonne santé que vieux et immunodéprimé, évidemment. Mais plus vous vous infectez, plus le risque est grand. Bref, c'est un peu la merde. Alors, quelques mots aussi sur la situation française dans ce cadre-là. Vous avez peut-être entendu parler de l'épidémie de bronchiolite. Alors, où il se passe un peu une spécificité, enfin plusieurs, je ne vais pas détailler beaucoup. En France, c'est qu'on ne fait pas le lien avec le Covid, alors que quand même, la bronchiolite, c'est quand même une maladie qui peut être provoquée par, en fait, d'autres virus pulmonaires. Et en particulier, on a une grosse inquiétude là-dessus sur le fait que ça pourrait être provoqué par le Covid. Alors en France, on a même des gens qui rament complètement à contre-courant avec des théories absolument fallacieuses du type dette immunitaire, en disant « Ah ouais, mais les gamins, ils auraient été protégés par les masques et par le fait de moins voir de virus lors des 2 dernières années. Et du coup, leur système immunitaire, ça a plat. » Alors c'est complètement faux, c'est stupide. Hein, votre système immunitaire, moins il voit de virus, mieux il se porte. Et il sera toujours capable de les combattre par la suite, la plupart du temps. Donc du coup on a comme ce lien on en parle assez peu. Alors c'est marrant parce que des fois il y a comme une communication qui fait qu'on en parle un petit peu. Par exemple l'Académie de médecine française, donc une institution importante mais qui n'a aucun poids politique, hein, donc qui regroupe un certain nombre de médecins, recommande aujourd'hui la nécessité de remettre le masque obligatoire et lit les maladies saisonnières, donc notamment le retour de la grippe, le Covid-19 et l'épidémie de bronchiolite qui est quand même en train de mettre l'hôpital à plat, et qui quand même, on parle des individus, il y a des morts, il y a des gamins qui restent hospitalisés très longtemps, on parle des individus les plus fragiles de la société, la manière dont on les traite devrait quand même un petit peu nous interroger. Bref, ce retour du masque, il n'a pas l'air d'être prévu. Bon, en même temps, on ne va peut-être pas toujours tout attendre de l'État, donc on peut s'organiser facilement. Donc, rappel de quelques petites règles. Alors là, mon micro vient de remonter subrepticement. Quelques petites règles qui sont applicables relativement facilement. Porter des masques en lieu clos. Idéalement, porter toutes et tous des masques, idéalement des masques FFP2 qui vous permettent de filtrer ce que vous inspirez et ce que vous respirez. Particulièrement qui vous protège vous. Surtout si vous êtes seul en lieu clos, portez des FFP2, enfin seul à être masqué, pardon. aérer régulièrement. La qualité de l'air change tout, les courants d'air sont nos amis. Alors bien entendu, en hiver, c'est un peu plus inconfortable, mais c'est aussi une chose. La vaccination qui quand même protège de l'essentiel des formes graves ou très graves. On peut toujours essayer d'éviter les foules, particulièrement en intérieur. C'est quand même important. Et puis, toujours la nécessité, même si on ne se teste plus beaucoup dans ce pays, essayer de se tester en utilisant des PCR, parce que les antigéniques et les autotests, c'est pas très fiable. Les autotests en particulier, c'est très très peu fiable. Vous pouvez vous tester, etc. Et le faire si vous avez des symptômes ou cas contact, et vous isoler aussi, parce qu'à un moment, si par exemple vous allez voir une personne réputée fragile et vous dites « je vais faire un test », si vous avez été dans une foule deux jours avant, votre test peut très bien être négatif, et que vous soyez vous-même positif quelques heures ou journées plus tard et contaminer cette personne. Voilà, donc à l'approche quand même, notamment des fêtes de fin d'année dans lesquelles une partie de notre auditoire sans doute croise un paquet de monde, il va falloir faire ça. Et le dernier point, évidemment, sur le sujet, c'est de partager ces informations le plus largement possible, notamment parce que les informations sur l'impact de l'aération, etc., ou de l'aérosolisation, hein, le fait que le Covid circule surtout par aérosol, en fait, n'est pas si bien passé que ça. Il y a encore plein de gens qui sont persuadés que s'ils se lavent les mains correctement, tout va bien, indépendamment du masque. C'était les bonnes nouvelles du Covid, ça bouge toujours pas, on est toujours, voilà, ici à la radio nous vous parlons derrière un masque, et ça n'empêche pas du tout de vous raconter des choses parfois plus sympathiques.
Et par ailleurs, peut-être pour l'épidémie de bronchiolite, on peut aussi rappeler que, évidemment, ça fait un petit moment que la pédiatrie dit « on crève la gueule ouverte », et qu'il ne se passe pas grand-chose. Et une fois encore, c'est toujours l'alliance d'un contexte social et d'une réalité épidémique et biologique qui vient foutre encore plus le zbeul là où on s'en serait bien dispensé.
C'est ça, et on pouvait un peu s'y attendre. Quand même, poser un point, le plan blanc, donc en fait, qui est un plan de comment on dit,
de rappel... survie de l'hôpital ? C'est celui-là ?
Non, le plan blanc, c'est le truc qui permet de convoquer des médecins qui sont censés soit être à la retraite, soit pas travailler ces jours-là, parce que l'hôpital est en danger par rapport au nombre de patients actuellement, notamment du coup actuellement beaucoup d'enfants avec des bronchiolites et beaucoup de personnes pour Covid-19, a été déclenché. Le plan blanc, ça n'était pas déclenché si souvent que ça il y a quelques années, et ça faisait l'objet notamment de médiatisation. Là, ça a quand même plus ou moins passé
à la trappe.
Extrêmement discrètement, ce qui nous refait penser aux propos de cette Charlotte Berger, selon laquelle la question médiatique serait un bon thermomètre de ce qui se passe. On peut se douter, une fois de plus, se douter, on le savait déjà, que ce n'est pas le cas. Évidemment, les médias vous mentent, sauf Radio Canu. C'est ça le...
Ouais, c'est le slogan.
C'est le slogan, même Radio Canu vous ment par ailleurs. Chose pas plus joyeuse, on va quand même vous passer un petit morceau de musique. C'est aujourd'hui le 11 novembre. Alors nous, on va pas commémorer les grands hommes, les grands militaires qui ont perdu la victoire française.
Et même tous les militaires, parce que maintenant, c'est la journée de commémoration de tous les militaires qui seraient morts sur cette année. Enfin, chaque année, on va commémorer tous les militaires morts, je crois, le 11 novembre. C'est la petite cérémonie.
Ça a été changé de sens.
Bah, okay. Il y a l'armistice, plus un petit moment pour dire tel et tel militaire sont morts au courant de l'année. Donc, ça fait journée de commémoration des militaires morts cette année pour la France, comme ils aiment à dire. Voilà.
Voilà. Donc, nous, ici, on est anti-militariste. On va pas du tout commémorer ça. En revanche, vous le savez sans doute, hein, 14-18 a été un sacré massacre. C'est une guerre qui a vu des millions de personnes, 18 millions de morts quand même, dont des millions de soldats qui étaient des appelés, hein, c'était des paysans notamment qu'on envoyait beaucoup au front, qui sont allés se faire massacrer pour des sujets qui les dépassaient complètement, notamment à la frontière franco-allemande. Et il se trouve que tous n'étaient pas tout à fait convaincus, il y a eu des chansons qui en ont parlé, donc une chanson assez célèbre qui s'appelle « La chanson de Craon ». On vous en diffuse une version dont vous allez tout de suite vous rendre compte du style. On se retrouve juste après.
Le prochain morceau, il a été écrit pendant la Première Guerre mondiale, s'appelle « La chanson de Craon ».
adieu la vie, adieu l'amour, adieu à toutes les femmes. C'est bien fini, mais pour toujours, de cette guerre enfin. C'est la parole sur le plateau qu'on voit les chaînes s'abonner. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes ça qui
là. Et j'étais en train d'écrire, j'ai failli rater le début, mais tout va bien. Alors, on va vous parler toujours d'international, et on va vous parler des Pays-Bas. Alors, c'est pas commun, parce que finalement, en tout cas, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas souvent. Mais là, il y a un petit papier, et en vrai, c'est surtout que ça fait très très écho à ce qui se passe en France. Alors, pour rappel, je suis allé chercher quand même, parce que les Pays-Bas, c'est 17 millions d'habitants, donc c'est quand même pas un très grand pays quand on compare à la France. C'est un peu plus de trois fois moins de personnes qu'en France. Et donc, aux Pays-Bas, depuis 2012, il y a environ 35 familles qui sont fait complètement faire mettre à genoux par l'État. Et évidemment, comme souvent dans ces histoires-là, ces familles, on n'est pas sur celle de la grande bourgeoisie, on est bien sur les allocataires. Alors tout ça, je vais essayer de le prononcer, je vais certainement l'écorcher, mais comprendre qui pourra. Ça s'appelle la Toeslenga Affaire, qui est en fait une affaire sur le fait que l'État, du coup, accorde aussi des allocations familiales aux Pays-Bas. Alors, c'est certainement pas exactement les mêmes qu'en France, mais on saisit bien l'idée. Mais que du coup, pendant des années, donc c'est de 2012 à 2019, il a attribué des allocations à des familles et finalement, au bout d'un moment, sans qu'on comprenne bien pourquoi, il leur demandait de reverser un dit trop perçu. Alors bon, ça c'est classique, ça existe déjà en France, sauf que là quand même le truc est massif, hein, c'est 35 000 familles qui sont faites avoir dans ce système-là, et on arrive sur des dettes qui peuvent aller jusqu'à plus de 130 000 euros, donc des chiffres complètement délirants. Mais c'est surtout qu'en fait, quand les allocataires ont demandé pourquoi, qu'est-ce que c'est que ce trop perçu, comment ça se fait que je dois rembourser tout ça, parce que bon, quand on a perçoit les allocations, généralement on n'est pas déjà dans une situation financière franchement confortable, et qu'en plus on vous réclame 70 000 balles, on aimerait bien savoir pourquoi. Seulement l'État, en fait, ils n'ont jamais voulu répondre à tout ça. Ils disaient non, il faut justifier. Les personnes envoyaient des justificatifs et encore, et on leur demandait toujours plus de justificatifs sans même préciser exactement ce qu'on attendait d'eux. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, un exemple pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Par exemple, il y a l'idée qu'il y a des aides qui sont données aux familles pour faire garder leur enfant. Et il y a une famille qui, en gros, il y a la possibilité aux Pays-Bas de les faire verser directement donc à la crèche qui gardait son enfant. Il se trouve que la crèche était fraudeuse, donc à l'insu, évidemment, de la famille qui n'en a tiré aucun bénéfice et qui, par ailleurs, n'en savait absolument rien et n'est absolument pas actrice dans ce truc-là. Mais en gros, la fraude de la crèche est retombée sur la famille, c'est à la famille de rembourser les trop perçus par la crèche pour garder bah, en fait, rien du tout. Donc pas l'enfant de la famille. Alors, bah, vous vous en doutez, hein, c'est un peu toujours les mêmes systèmes, c'est-à-dire qu'avec ce truc un peu généralisé, bah, évidemment, plus on est pauvre, plus on perçoit d'aide sociale, en général, en tout cas aux Pays-Bas, c'est encore un peu comme ça. Et bah, du coup, plus il y a eu trop perçu, et plus on doit rembourser. Donc on imagine bien, en gros, moins t'as de pognon, plus on va venir t'en réclamer. Alors, même si parfois ça peut être utile, je vous passerai les diverses trajectoires individuelles qui sont décrites. Vous pourrez retrouver l'article plus complet sur Mediapart. Mais ça fout quand même des gens dans la merde. Et évidemment, c'est un peu toujours les mêmes. C'est évidemment les plus pauvres. Et dans les plus pauvres, comme c'est souvent des histoires de garde d'enfants, c'est aussi les mères célibataires qui ont été le plus durement touchées par tout ça. Mais alors, comment ça a pu arriver? Parce que, quand même, une fois encore, c'est quelque chose qui est dans des proportions folles et avec un État qui n'a pas été capable d'expliquer pourquoi ça a été comme ça. Eh bien, en vrai, c'est que aux Pays-Bas, et c'est comme en France, vous savez, on en parlait il y a quelques semaines, la CAF a mis en place un algorithme qui permet d'estimer les risques de fraude, parce que le gros problème des aides sociales, c'est évidemment la fraude, c'est pas du tout que les gens les demandent pas, hein, parce que quand on compare les deux, on voit bien à quel point c'est proportionné d'aller s'intéresser prioritairement à la fraude. Bref, tout ça pour dire, ils ont mis un algorithme, donc comme vraiment ce qu'on a mis en France et ce qu'on a décrit il y a quelques semaines pour la CAF, et du coup qui met un score entre 0 et 1, en gros je crois que c'est 0, vous êtes vraiment super bien, et 1, vous êtes probablement un énorme fraudeur. Sauf que dans le même temps, bon bah, parce que quand même il faut les payer, les gens qui vérifient les fraudes, etc. Ça, l'État, il n'aime pas, parce que quand même, payer des fonctionnaires, c'est quand même grave. Du coup, ils ont squeezé aussi quasiment l'intégralité des personnes qui s'occupaient de ça, d'aller faire, entre autres, le contrôle des fraudes. Et on s'est retrouvé avec une machine qui fonctionnait toute seule, en roue libre, complet, et avec quelques contrôleurs-contrôleuses, en gros, qui ne faisaient aucune enquête, qui récupéraient simplement les scores de risque en prenant les plus élevés, et qui allaient tacler, du coup, les familles dites. Pour quand même vous donner une idée du truc, c'est qu'entre 2012 et 2019, donc 35 000 personnes ont été accusées de fraude, à tort dans 94% des cas. On est quand même sur un truc qui est hyper qui est quand même fou, c'est-à-dire que évidemment leur taux de risque de fraude, on verra après en plus comment c'est fait, évidemment c'est comme toujours très très raciste, mais par ailleurs là on est sur 80, en gros leur truc marchait absolument pas du tout et vient une fois encore démontrer que ce fantasme des aides qui sont fraudées massivement avec tous ces chômeurs qui viennent prendre de l'argent parce qu'ils gagnent plus en travaillant, tous ces gens qui mentent sur leur situation et qui trichent en vous faisant croire qu'ils ont plein d'enfants, et ces gens qui font des enfants pour toucher des aides, parce qu'on sait bien que vraiment on vit dans un confort absolument fou comme ça, et tout ce fantasme en fait du pauvre qui frauderait tout et tout le temps, là on en a une démonstration vraiment assez forte. 94% des cas ont été validés comme étant à tort, et quand même les gens, ils ont passé des années avec l'État sur le dos qui leur réclamait le pognon et ils devaient payer, et du coup ça allait évidemment, parce que quand les gens sont pauvres on continue de les taxer, parce que quand vous êtes riche vous faites de l'évasion fiscale, on vous pince, vous allez à Bercy, il y a le secret des affaires, vous dites oh là là désolé, je me suis loupé, je suis vraiment très très désolé, on vous dit oh bah c'est pas grave, une petite table dans le dos, tu payes ce que tu devais, par contre t'as pas d'amende, t'as pas de sanction. Là comme c'était des pauvres, évidemment comme ils étaient en dette vis-à-vis de l'État, on leur a coupé les prestations sociales qui touchaient à ce moment-là, qui se retrouvaient encore plus dans la merde, et on est allé jusqu'à prélever sur leur compte bancaire directement une partie du pognon qui devait à l'État. Donc je vous laisse imaginer la spirale de ouf. Vous n'avez pas de pognon, vous touchez des prestations sociales, on vous demande 70 000 balles, on vous coupe toutes vos aides, et en plus on vient vous prendre votre pognon directement sur votre compte. Autrement dit, c'est quand même des gens qui se sont retrouvés vraiment dans une merde de fou. Et une fois encore, un truc massif, et une fois encore, 94% du temps, de façon complètement illégitime. Donc on l'a dit, c'est évidemment cette idée que les algorithmes et les machines, c'est vraiment super et ça a toujours raison, parce que c'est de la science, voyez-vous, et du coup, la science, elle a forcément plus raison que personne, donc personne ne vérifie rien, et le truc disait, mais évidemment, et là, ça nous rappelle un peu, on disait que la CAF, dans les critères de risque, il y avait quand même le fait de ne pas être un ressortissant de l'Union européenne. Bah là, évidemment, aux Pays-Bas, il y avait aussi la dimension de ne pas être national ou d'être binational. Et du coup, évidemment, c'est une majorité de gens étrangers ou avec une binationalité, qui sont a priori pas du tout étrangers aux Pays-Bas, en tout cas, à moins que j'ai rien compris au système des nationalités, c'est quand même pas ça, qui sont fait massivement tacler. Et pire encore, c'est quand un allocataire d'une nationalité était ciblé par le truc, ça donnait la possibilité aux contrôleurs et aux contrôleuses d'aller chercher pour tous les autres gens, ça faisait une espèce de précédent, une espèce de jurisprudence, et du coup tous les compatriotes de cette personne pouvaient finalement être ciblés aussi par ces trucs. On ouais, est arrivé
on
dans
on imagine qu'on est dans le n'importe quoi habité, on sait que les algorithmes reproduisent les biais racistes préexistants. Mais là, en plus, on a le truc de, une fois que vous avez été contrôlé une fois, ça devient...
Ça devient une jurisprudence, c'est votre nationalité et la machine qui s'auto-engraine avec absolument personne pour vérifier. Et évidemment, on le rappellera et on va le rappeler encore à chaque fois qu'il le faudra. Un algorithme, c'est pas parce que c'est des maths que c'est neutre. Les algorithmes, c'est fait avec des entrées, c'est des personnes qui choisissent ces entrées. Et ces biais-là, ils sont non seulement, ça protège pas des biais, mais surtout, ça a plutôt tendance à les mettre en avant et à les accentuer encore plus. Et en particulier, on peut dire les biais racistes, qui sont vraiment les algorithmes, ils en ont rien à foutre. Le racisme, ça les intéresse pas, parce qu'ils savent pas ce que c'est. Et du coup, ces biais-là, ils vont avoir tendance à mettre l'emphase dessus et à produire des comportements encore plus racistes que ceux qu'on pouvait constater avant. Voilà, du coup... L'État là-dedans, parce qu'il a l'air d'être à peu près aussi bien que chez nous, aux Pays-Bas, il a quand même fini au bout de maintes et maintes articles, ça a duré 7 ans l'histoire hein, quand même, par prononcer un début, enfin pas vraiment des excuses, mais par dire « Oups, on s'est loupé », ah ouais, sans blague, et par indemniser, comme ils disent les familles, sachant qu'en gros, ils ont filé, je crois que c'est 30 000 balles, voilà, 30 000 euros par foyer, sauf qu'on rappelle qu'il y a des gens à qui on a demandé 70 ou 130 000 balles, donc on leur a même pas remboursé ce qu'on leur avait réclamé, et par ailleurs, on pourrait envisager un dédommagement pour des femmes qui ont perdu la garde de leurs enfants et qui ont dû les confier à leur ex-mari, contre des décisions de justice, parce qu'en fait, elles devaient bosser 24 sur 24. Aucun dédommagement sur la violence, en fait, de leur reconnaissance de la violence inouïe que ces personnes ont subie. Et malheureusement, il semblerait que l'État néerlandais soit pas beaucoup plus concerné par sa population, et en particulier par les plus pauvres, que chez nous.
Le contraire aurait été étonnant. Eh ben, c'est super. Eh ben, écoutez, on passe tout de suite à l'agenda. On a un gros agenda ce soir.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est, oui, un russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et on est de retour pour l'agenda, évidemment, sur Radio Canu ce soir. Un agenda relativement chargé avec une première partie sur qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire dans les prochains jours et une seconde sur ce qui se passe à la radio. Alors, demain, on a comme d'habitude deux permanences habituelles. La première qui est la CNT Interpro, si vous avez des besoins de boulot, ça se passe au 44 rue Bourdeau à Lyon 1. Et de 11h à 13h, pardon. Et de 14h à 18h, vous avez la permanence de la Lutine qui vend des livres, des fanzines, etc. Et demain, c'est une permanence un peu particulière puisque à la Lutine se fête la sortie de l'agenda et vous pouvez passer. Vous en prendrez un, le prix n'est pas indiqué dans l'article de Rebellion, mais en général c'est aux alentours de 4 ou 5 euros. Et ça vous permet d'avoir un agenda hyper riche, à la fois vachement beau parce qu'il est fait à la main, sérigraphié pour sa couverture, et qui vous donne un certain nombre d'informations, notamment sur les collectifs à suivre, les meilleures radios de Canu et de Lyon, et puis tout un tas de choses. Cet agenda va de septembre 2022 à septembre 2023. Il y a un peu de retard à la sortie, mais c'est pas très grave. Franchement, vous avez perdu un mois et demi. C'est super beau. Une fois de plus, ça va claquer. Demain, à la Lutine, il se dit qu'il pourrait même y avoir un coup à boire à la fin. Donc, c'est dans l'après-midi à partir de 14h. La Lutine, on rappelle, c'est 91 rue Montesquieu, dans le 7e arrondissement.
Et c'est toujours demain, et il y a une rencontre autour de l'ouvrage Terreur et Séduction, une histoire de la doctrine, de la entre guillemets guerre révolutionnaire à la griffe. C'est une rencontre avec Jérémy Rubenstein, donc autour du livre que je viens de citer, et qui se tiendra à 15h à la griffe, qui est évidemment 5 rue Sébastien Griffe à Lyon 7. Jérémy Rubenstein, pardon, c'est un docteur en histoire contemporaine de l'université Panthéon-Sorbonne, et qui est aussi un spécialiste de l'Argentine et de la violence politique. Je vous fais part de la quatrième de couverture de l'ouvrage. Les techniques issues de la tradition militaire de contre-insurrection et d'action psychologique sont aujourd'hui largement banalisées, y compris dans le management d'entreprises, dans nombre de polices du monde, voire dans des groupes mafieux. Mais on ignore souvent ce qu'elles doivent à la doctrine française de la entre guillemets, guerre révolutionnaire. D'où l'intérêt de cet ouvrage qui retrace son histoire méconnue. Sa genèse remonte aux armées coloniales du 19e siècle, principalement françaises et britanniques, qui ont constitué un savoir-faire répressif permettant l'émergement
de la guerre révolutionnaire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été formalisée par des officiers français engagés dans la guerre d'Indochine, devenant hégémonique dans l'état-major durant celle d'Algérie. Elle se veut une réponse au mouvement de décolonisation conçu comme une guerre totale impliquant l'ensemble de la société. Elle vise son contrôle intégral par la propagande et la manipulation, la conquête des cœurs et des esprits, mais aussi par la terreur associée à la séduction propagandiste, torture, exécution extrajudiciaire, disparition forcée, déplacement des populations, etc. Malgré de nombreux fiascos, on verra comment la guerre révolutionnaire a essaimé depuis les colonies françaises vers bien d'autres terrains. De la guerre du Vietnam à celle d'Irak et d'Afghanistan, pardon, de l'Argentine des années 1970 à l'Afrique des années 80 ou l'Algérie des 90, et comment ces principes se retrouvent aujourd'hui au cœur des techniques violentes de maintien de l'ordre comme des outils de manipulation de l'information.
Camarades éditeurs, si vous nous entendez, faites des quatrièmes de couvre plus courtes. En attendant, demain, une dernière chose que vous pourrez faire, c'est aller au Casdal. Le Casdal, c'est un squat dans le 3e arrondissement de Lyon. Et au Casdal, qu'est-ce qui se passe? Logiquement, on y mange. Donc, il y a une cantine. C'est à partir de 19h demain. L'objectif, c'est une cantine qui va soutenir ce lieu menacé d'expulsion. Voilà, les sous serviront notamment pour les travaux du projet actuel. Et c'est un menu 100% vegan. Et ça se passe au 221 rue de Créqui, Lyon 3e.
Et ça, ce sera du coup ensuite mardi, puisque vous serez reposé un petit peu. Et donc le 15 novembre, c'est à 19h et c'est toujours à la Griffe. Vous êtes invité à une rencontre avec Mathieu Rigouste. Les causeries des clameurs s'invitent à la Griffe. Le 15 novembre, dès 19h, venez rencontrer Mathieu Rigouste, chercheur indépendant en sciences sociales, réalisateur militant. Il est notamment l'auteur de La police du futur, La domination policière, Un seul héros, le peuple et L'ennemi intérieur. Je vous ai pas cité les éditeurs, mais vous les retrouverez comme des grands. Au programme, projection du film Un seul héros pour le peuple de Mathieu Rigouste. L'histoire d'un
Un seul héros, le peuple.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Pour le peuple.
Ah ouais, non, c'est Un seul héros, le peuple. Excusez-moi. Donc, de Mathieu Rigouste, l'histoire d'un soulèvement populaire victorieux, le fruit d'une recherche socio-historique de 7 ans sur les manifestations populaires de décembre 60 en Algérie. Court-métrage qui est le troisième volet d'une œuvre politique et artistique composée d'un livre, d'un site internet pour notamment comprendre les enjeux du soulèvement du 11 décembre 60. Ça, c'est le Bondy Bloc qui le dit. Et ensuite, discussion autour du film et un petit chapeau tournera. Donc, prenez quelques monnaies avec vous.
Voilà, et si vous voulez aller au cinéma et voir des choses qui parlent d'anarchie, il y a un ciné-débat sur Ni lieu ni maître qui se tient en 3 séances à l'annexe de l'ECG, donc 27 rue Salomon-Rénac, on est dans le 7e. Ça commence jeudi 17 à 18h30 avec le livre 1, parce que c'est un film en 3 parties, et une discussion. Ça se poursuivra la semaine suivante et encore la semaine suivante autour de ce film de Tancred Ramonet. J'en donnerai pas mon avis, mais vous pouvez aller le découvrir. Ou pas.
Sur ce, on enchaîne avec des infos de la radio. Ça, c'est super. Vous n'avez même pas besoin de sortir de chez vous pour voir tout ça. Alors, du coup, le 17-11, je vais dire les mois quand même, le 17 novembre, le 1er décembre et le 15 décembre, c'est la petite cuillère, l'émission Contre toutes les prisons qui fait son retour sur le 102.2 FM. Donc, c'est finalement comme avant, c'est tous les premiers et les troisièmes jeudis du mois que ça se passe sur Radio Canu en direct, et évidemment, vous pouvez les retrouver en podcast ensuite. La rubrique Mégaphone diffuse vos messages. Si vous voulez nous contacter pour laisser un message à un ou une de vos proches enfermés à Saint-Quentin-Falévier, Villefranche, Mézieux, Corba, au Vinat ou à Saint-Ex, vous pouvez appeler 24 heures sur 24 au 07 81 35 93 71. Attention, pas de texto, que des messages oraux, sinon ils ne seront pas reçus. Ce numéro est aussi là pour nous faire suivre des infos sur ce qui se passe à l'intérieur. Les messages seront diffusés en début de l'émission suivante. Vous pouvez également écrire par mail à lapetitecuillère@riseup.net ou à l'atelier d'écriture au 24 rue Sergent Blandan à Lyon 1er. Je me suis perdu, voilà. Conseil extrait du guide à l'usage des proches des personnes incarcérées. Ne laissez pas des messages trop longs. N'oubliez pas que votre proche n'est sans doute pas le seul à l'écoute. C'est pas toujours facile de laisser un message à la radio, mais ce n'est pas toujours évident de l'autre côté des barreaux d'écouter ses proches, surtout les nouvelles ne sont pas bonnes. Alors, autant que faire se peut, mettez de la bonne humeur dans votre message et appelez à plusieurs si vous avez peur de perdre vos moyens. Et du coup, il me semble que c'est bien de rappeler le numéro de téléphone, c'est le 07 81 35 93 71.
Absolument, et nouvelle de la radio, on annonce dès maintenant ce qui se passera le samedi 26 novembre à l'annexe de l'ECG. Et il y aura une émission en public et en direct autour du fanzine des urbanismes de 15h à 17h. Donc, je vous lis le petit texte, hein, détruire les villes, mais vous n'y pensez pas. Mais si, on y pense. Évidemment, on ne va pas y aller avec un bulldozer, pas non plus avec le dos de la cuillère. Pour l'instant, on utilise la poésie pour semer le doute dans des têtes. Et si une nuit étoilée ou une énorme vague avait plus de sens qu'un bus bondé aux heures de pointe ? Viens découvrir un fanzine d'amoureux des villes, passionnés par leur destruction, avec une émission publique autour de l'ouvrage « Détruire les villes » avec poésie subversion, un titre formidable, republié récemment aux éditions « Le Monde à l'envers ». Donc en 2022, donc c'est le 26 novembre à 15h en direct de l'annexe. Pendant 2 heures, on va discuter de l'ouvrage, du fanzine et de sa réalisation avec son autrice, de la ville comme espace dominé et structuré par le capitalisme, des luttes et des critiques qui émergent pour détruire ou la retourner même. Ce sera aussi l'occasion de donner de la voix pour adapter des morceaux de l'ouvrage à l'antenne. Donc il y aura en fait une espèce de mise en forme d'un certain nombre de morceaux dans des formes radiotoniques et faire entendre en fait certaines de ces pages. Donc c'est pas uniquement une interview de la personne qui a fait vivre ce fanzine. Et l'émission se terminera par un temps d'échange avec le public. On remerciera Radio Canu d'avoir un micro HF pour ce faire. L'émission sera diffusée en direct sur Canu, 102.2 FM, bien sûr, radiocanu.org, vous nous écoutez en direct, vous le savez, de 15h à 17h. Et pour assister à l'émission, deux conditions, merci d'arriver vers 14h45, plutôt arriver un peu avant l'émission de 15 à 17h à l'annexe de l'ECG, donc c'est 25 rue Salomon-Rénac dans le 7e. Et aussi, merci de porter un masque, puisque en autodéfense sanitaire, on préfère vivre avec nos camarades qu'avec le virus. Et donc, le masque sera obligatoire pour toute la durée de l'événement.
Et alors, on vous a complètement menti en début en vous disant que Radio Canu, c'était de chez vous, parce qu'on va aussi vous parler d'un autre événement. Alors là, ce qui a eu lieu, c'était le 28 mai 2022, c'était la fête des Canu Info, et vous aviez pu venir profiter d'un long plateau de 7 heures en direct et en public depuis la place Sato. Et ben, pourquoi on vous en reparle finalement? Parce que c'est passé, ben parce que ça y est, vous pouvez réécouter les sons de cette journée des Canu Info. Vous retrouverez un article sur Rébellion, donc Rébellion, si vous cherchez Fête des Canu Info, vous allez tomber dessus sans trop forcer, et même je crois que c'est encore sur la première page. Et du coup, vous pourrez choisir, peut-être si vous le voulez, les moments qui vous intéressent le plus avec les divers thèmes abordés. Il y avait des questions de santé, les questions anti-rep, les questions de squat évidemment, les questions féministes. Je vais pas réussir à tout lister de tête, mais en tout cas, c'était, il y avait super, tout un tas de trucs, et c'était super. Si vous voulez réécouter, c'est enfin accessible
sur rebellion.info et bientôt sans doute sur radiocanu.org. On passe tout de suite à la suite. C'est logique.
Je m'appelle Marius, j'ai 14 ans et je voudrais savoir ce que ça veut dire ACAP.
Canu Info du vendredi.
Et oui, un ACAB du vendredi, notre jingle classique, un peu spécial ce soir, parce qu'en fait, on va être obligé de rendre hommage à une personne qui s'appelle Noëlle Bréham. Noëlle Bréham, alors pour celles et ceux d'entre vous qui ne la connaîtraient pas, Noëlle Bréham, c'était la productrice de Maman les petits bateaux. Et Maman les petits bateaux, c'est cette émission de scientifique à destination des enfants qui a en fait inspiré notre jingle qu'on vient de vous passer, puisque le jingle est basé sur la musique de Maman les petits bateaux, avec l'idée que des gamins appellent, évidemment, pour savoir ce que ça veut dire ACAB. Et Noëlle Bréham, on va lui rendre un petit hommage. Noëlle Bréham vient de se faire virer de France Inter quand même pour avoir, tenez-vous bien, demandé un CDI après 40 ans de CDD. Donc elle était depuis 40 ans en CDD, donc la radio justifie ça en disant mais chaque année on va renégocier la présence de la personne sur la plage horaire. On a vu ça récemment avec les animateurs et animatrices de... C'était quoi? C'était question pour... non, pas question pour un champion, c'est Chiffres et des lettres, qui se sont fait virer au bout de 47 ans de CDD, donc un truc assez, assez hallucinant.
Il y avait peu de chances qu'il soit renouvelé, finalement.
Il y avait peu de chances peut-être qu'il soit renouvelé, puis il devenait sans doute trop cher. Et de fait, Noëlle Bréham s'est fait elle-même licenciée, donc elle disait, en fait, elle explique... notamment, bah, ça fait en fait 40 ans que donc à chaque fois on lui donnait un CDD. Donc l'émission Maman les petits bateaux, dont on s'inspire pour le ACAB, finalement elle existait depuis 25 ans, mais ça fait 40 ans qu'elle était en CDD, donc 40 ans qu'elle essayait de négocier. Cette année, elle a essayé de négocier un CDI, elle a refusé de signer son CDD. Toutefois, France Inter a décidé de la maintenir à l'antenne. Et puis, France Inter a décidé de la licencier, en fait, à lui dire qu'il fallait partir, puisque eux ne voulaient pas lui donner CDI. Elle avait refusé de signer le CDD. Et donc, ils ont dit, on ne va pas continuer sans contrat, mais ils ont quand même continué jusqu'à présent, puisqu'elle démissionne quand même, les grilles de radio reprennent fin août. Donc, Noël Bréham, 40 ans de CDD, viré pour avoir demandé un CDI de France Inter. Il y aura sans doute une suite juridique. En tout cas, comme on aime beaucoup ce petit jingle, on le repasse en hommage à cette grande productrice de radio.
Je m'appelle Marius, j'ai 14 ans et je voudrais savoir ce que ça veut dire ACAP, Canyon Info du vendredi.
Et encore une fois, plein de gens nous ont appelés pour nous dire ce que ça voulait dire ACAB. Alors.
Et alors ACAB, ce soir, ça peut vouloir dire allocataire allait cramer ses abrutis de bailleurs.
Et aussi, ça peut vouloir dire algorithme catastrophique, amitié à Noël Bréham. On a déjà une petite équipe qui s'installe dans notre studio.
Absolument, c'est l'équipe de Noise Pollution qui fait du... C'est quoi? C'est de l'électro-valse.
Électro-valse, un truc qui cartonne bien sûr ici. On leur laisse tout de suite la place. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine sans faute à 19h.
Bonne soirée.
Ciao.